Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. C'est dur de dire comment ça va quand on sait que certains passent dans des moments bien difficiles. Et je pense bien sûr à notre frère Jacques. La vie est dure. La vie, elle cogne. Et tout ce que nous voyons à la télévision, jour après jour, des catastrophes. Combien c'est dur. Mais il est bon de nous rappeler, comme Benoît l'a bien fait ce matin, et merci Benoît, que Dieu est grand. Dieu est celui qui est au-dessus de toutes ces choses qui arrivent jour après jour. Merci aussi Eric pour cette présidence de la Seine-Saint-Denis où on se rappelle ce qu'il a fait pour chacun de nous. Nous sommes dans ce week-end de l'Ascension. Et c'est vrai qu'on parle plus de Noël, de Pâques, que l'Ascension. Un chrétien a dit, l'Ascension c'est l'acte oublié. Et pourtant, c'est un trésor en plus et en plus. Une preuve en plus de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant les 40 jours entre sa résurrection et son ascension, le Seigneur Jésus est apparu à ses apôtres et leur avait donné les preuves et les preuves de sa résurrection. Après 40 jours, Jésus quitte ce monde pour le royaume céleste, où il prend place sur le trône, à la droite de Dieu, la place d'honneur. Lors de nos études, Benoît, tous les mardis, le mardi du fin du mois, mardi prochain qui arrive, c'est encore l'étude. Et Benoît nous rappelle le tabernacle, le temple, avec tous ses ustensiles, le lieu saint, le lieu très saint. Alors, il y a bien sûr les tentures, l'autel d'airain, la cuve d'airain, la porte accès au parvis, l'autel de parfum, la table des pains, etc., etc. Et là, il y a quelque chose qui n'y a pas. Du moins, peut-être après on va le voir, mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, je vais citer ce verset, peut-être que ça va vous donner l'idée, ce qu'il n'y a pas. C'est dans Hébreux au chapitre 10, au verset 12. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Qu'est-ce qui manque dans le tabernacle, dans le temple, tous ces ustensiles qu'on a vus? Il manque quelque chose. Et dans ce verset, nous voyons que Jésus s'est assis. Il manque la chaise. Une chaise. Jésus est assis, qui veut dire également que c'est solide, que c'est stable, que c'est ferme, qui veut dire tout est accompli, il peut s'asseoir. Tout est accompli pour chacun de nous, mes frères et sœurs. Parce que tout a été péché, tous les péchés ont été pardonnés, effacés et payés. Jésus peut s'asseoir. Plus besoin de recommencer. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il peut se reposer de toutes les souffrances qu'il a endurées pour chacun de nous. Pourquoi, mes frères et sœurs, on s'assit? Parce que parfois, on a eu une journée longue et dure et il est bon de s'asseoir. Jésus l'a fait pour toi. Cette souffrance, il l'a endurée pour toi. Il peut s'asseoir parce que tout a été accompli. Et l'ascension signifie que l'œuvre du Christ est terminée sur la terre. Elle était remise sur les apôtres en premier, et puis nous, les disciples du Christ. Le passage qu'on va lire, il est dit que Jésus reviendra de la même manière qu'il est parti au ciel. Est-ce que ce matin, nous avons la joie de savoir que Jésus, celui qui est parti, il va revenir. Celui qu'on adore dimanche après dimanche, il va revenir. Celui que tu sers jour après jour, il va revenir. Est-ce que nous sommes de la joie? J'ai un collègue qui est chrétien et il m'a dit, Gino, il y a ma fille qu'elle est partie en mission. Et quand il me l'a dit, il était tout triste de savoir que sa fille part avec son beau-fils. Et la force qu'il avait, c'était, elle va revenir, elle part que quelques mois. Et voilà qu'il a eu le Covid, elle n'a pas pu revenir. Et là-bas même, elle est tombée enceinte. Et en tant que papa, il avait le désir de voir sa fille. Et il y a un mois d'ici, elle est restée 2 ans et demi, un mois d'ici, il me dit, « Gino, ma fille revient !» C'était un jeudi. Il n'était plus triste, mais une joie qu'on pouvait lire dans son visage. Il était rempli de joie. « Ma fille va revenir, Gino !» Et je lui dis, « Quand elle revient ?»« Lundi !» Où elle va habiter? Et il me dit, à la maison, j'ai tout préparé pour elle. Il était dans la joie. Et je pensais à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit qu'il va revenir. Est-ce que je suis dans la joie comme ce collègue qui savait que sa fille allait revenir? Je me posais cette question-là. Jésus va revenir. Et on va lire ensemble ces versets dans Actes au chapitre 1 et on va lire les versets 9 à 14. Chapitre 1 dans Actes, versets 9 à 14. Il est dit, après avoir dit cela, c'est Jésus, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Voilà la lecture de ce matin. Ce matin, je voudrais m'arrêter sur 3 points. Et le premier, c'est, ces apôtres avaient les regards fixés au ciel. Regard fixé au ciel, qui veut dire un regard prolongé, un regard attentif, un regard concentré. Peut-être certains se souviennent quand ils étaient fiancés. Et quand sa fiancée ou son fiancé partait, ils avaient un regard fixé sur elle. un regard prolongé, attentif, jusque qu'elle s'en va. Je dis quand on était fiancé, parce qu'une fois qu'on est marié, après, on oublie ce regard. Mais combien il est important. Ces apôtres avaient un regard prolongé, que même deux hommes vêtus en blanc, qui veut dire, on croit vraiment que ce sont deux anges, leur apparure, et il n'y a aucune réaction, tellement qu'ils avaient le regard fixé au ciel. Aucune peur, aucune frayeur. Ils sont attentifs au ciel. Peut-être que ça vous arrive, moi ça m'arrive souvent. Je suis tellement concentré sur quelque chose, un regard vraiment prolongé. Je donne un exemple, quand je regarde un match de foot, et voilà qu'il y a une grande action, Myriam me parle. Et là, elle me dit, t'as compris ? Et j'ai rien compris. Tellement mes regards étaient fixés sur l'occasion. Mais j'ai rien compris. Parce que mes regards sont sur l'action. Et ces apôtres avaient le regard fixé au ciel. Que même deux anges leur apparaissent, il n'y a aucune réaction. Il a fallu que ces deux anges disent « Homme galiléen !» Parce qu'ils étaient de cette région. Sauf Judas, mais Judas n'était pas là. Alors ils sont attentifs. Pourquoi je dis qu'ils sont attentifs? C'est comme si aujourd'hui, on vous dit « Vous, hommes de jumée !» Ils parlent pour l'ensemble des personnes. Pas pour une seule personne, mais pour les 11. Aujourd'hui, vous, hommes de l'église de jumée. Quand il dit homme, bien sûr, il y a les femmes. Ces anges disent, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Quelle question! Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Est-ce que la question est un reproche? C'est pas un reproche, mais plutôt une exhortation. Il regardait le ciel, mais Jésus était retiré de leurs yeux, il est dit. Une nuée le déroba. Il regardait le ciel, mais il n'était plus là. C'est pourquoi ces anges disent, pourquoi vous arrêtez-vous? Ces apôtres pouvaient dire, tu sais pourquoi on s'arrête? Parce que notre Seigneur, notre Sauveur, est parti au ciel. Nous avons de la tristesse dans notre cœur. Mais ces anges veulent les exhorter. Pourquoi vous arrêtez-vous? Alors mon premier point, pourquoi on s'est arrêté? Pourquoi on s'est arrêté? Certainement, vous allez dire, parce que nous aussi, on s'est arrêté parce qu'une personne qu'on aime n'est plus là. Et nos yeux sont fixés sur cette personne parce qu'on l'aime. Et c'est un regard fixé, un regard prolongé, attentif sur cette personne. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Et l'ascension nous rappelle que Jésus est ressuscité. Il nous rappelle qu'il est lui-même la résurrection. C'est la preuve C'est pourquoi ne t'arrête pas. Je suis la résurrection. C'est pas un reproche, mais une exhortation. Ne t'arrête pas. Peut-être que tu t'es arrêté et que tes yeux sont fixés sur ta maladie. Et c'est un regard prolongé, attentif, et jour après jour, tu t'arrêtes à regarder cette maladie. L'ascension nous rappelle que Jésus est à la droite du Père. Pourquoi il est à la droite du Père? Pour intercéder pour toi, pour moi. Il ne te promet pas la guérison, mais il te promet j'intercède pour toi. Parce que je t'aime. Alors ce n'est pas un reproche, mais c'est une exhortation. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Peut-être que tu t'es arrêté et tes yeux sont fixés sur ton âge. Un âge bien avancé. Et tes regards sont sur ton âge. Et l'ascension nous rappelle que Jésus a été jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la croix. Il est mort. Il a été jusqu'au bout. Alors ne t'arrête pas. Ne regarde pas ton âge. Mais continue. C'est pas un reproche. C'est une exhortation. Peut-être que tu regardes ta solitude. Je suis toujours seul, seul. Et tes yeux sont prolongés sur cette solitude. Et tes yeux sont toujours fixés sur ça. L'ascension nous rappelle que Jésus a dû partir pour te donner un consolateur. C'est pas un reproche, mais ne t'arrête pas. C'est une exhortation. Alors, pour les jeunes, peut-être que tu t'es arrêté, tes yeux sont fixés, que tu regardes tes copains et tes copines, qu'ils ont une petite fille et un petit garçon, et tu dis, moi, je suis seul. Et tes regards sont fixés sur tout le temps sur tes copains et tes copines. Et tu dis, et moi? Et moi? Eh bien, l'ascension nous rappelle que le plan de Dieu s'est accompli à la lettre. Et il a un plan pour toi. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Je sais que c'est la chose la plus dure pour un jeune. Parce que je suis passé par là. C'est une exhortation. Peut-être que tes yeux sont fixés sur ton péché. Et tes regards sont sur ce péché. Luther dit, si tu te considères comme un petit pécheur, alors tu vois Jésus comme un petit sauveur. Mais si tu te considères comme un grand pécheur, alors tu vois Jésus comme un grand sauveur. Luther continue et dit, quand Satan me dit que tu es un pécheur, Luther répond, ça me réconforte, puisque Jésus est mort pour des pécheurs. L'ascension nous rappelle que Jésus a tout accompli sur la croix. Et il s'est assis pour te dire, j'ai pardonné ton péché. J'ai accompli pour toi ce que tu pouvais pas faire. Alors c'est pas un reproche, c'est une exhortation. Et on peut s'arrêter sur encore et encore d'autres choses. Avec Myriam, ça nous arrive d'aller marcher. Et dans notre marche, dans la région, ça nous arrive d'aller visiter l'une ou l'autre personne, une personne âgée. Après avoir visité cette personne, on redémarre pour partir marcher. Et Myriam me dit à chaque fois, c'est dur de repartir après avoir arrêté. C'est pourquoi ces anges disent, pourquoi vous arrêtez-vous? C'est dur après de redémarrer. Alors il est bon de ne pas s'arrêter. Alors ces apôtres, comment ils ont démarré pour aller à Jérusalem? Qu'est-ce qui les a encouragés à redémarrer, à partir à Jérusalem? Ils ont entendu Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière. Et dans Luc, le dernier chapitre, les derniers versets, il est dit que ces apôtres, ils sont retournés avec une joie. Alors, ne t'arrête pas. Il y a une promesse. Jésus va revenir. Premier point, ne t'arrête pas. C'est une exhortation. Deuxième point, ces apôtres retournent à Jérusalem. Parce que dans le verset 8, on voit que Jésus leur dit qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint. Mais aussi Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils retournent à Jérusalem pour être des témoins. C'est quoi être témoin? Un témoin, c'est une personne qui a vu et entendu. Et la plus grande définition où je peux voir, c'est dans 1 Jean chapitre 1, versets 1 et 2. Il est dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ces apôtres l'ont vu de leurs yeux. Jésus-Christ ressuscité, ils l'ont vu, ils l'ont touché. Nous, on ne l'a jamais vu. Mais on doit croire à ces apôtres qui l'ont vu. Un témoin de Jésus, c'est simplement quelqu'un qui dit la vérité à son sujet. Aujourd'hui, nous les croyants, nous avons la responsabilité d'être les témoins de Christ partout dans le monde. Dans un sens, mes frères et sœurs, on ne choisit pas d'être témoin ou de ne pas être témoin. Jésus nous dit, vous serez mes témoins. Être témoin du Seigneur, c'est dire ce que le Seigneur a fait dans notre vie. On le dit avec nos paroles, mais on oublie souvent nos gestes. Comme je vous l'ai dit, de temps en temps, ça nous arrive de marcher avec Myriam. Il n'y a pas si longtemps, il y a une voiture qui s'arrête. On était en train de marcher. Il ouvre son carreau et il me demande, excusez-moi, est-ce que vous connaissez le terrain de football de Gouilly-les-Piétons? C'est un terrain synthétique. Je regarde ma femme et je dis, un terrain synthétique à Gouilly-les-Piétons, ça n'existe pas. ça m'a fait tilt, mais j'ai pensé au film Les Ch'tis, quand il lui dit « Accompagnez-moi à l'hôtel ». À Burke ? Un hôtel ? Et j'ai pensé vraiment à ça. Un terrain synthétique à Gouilly des Piétons, ça n'existe pas, monsieur. Il me dit « Mais pourtant, je vois un terrain synthétique à Gouilly des Piétons. » Non, il y a un terrain de football, mais synthétique, non. Alors, je lui explique la route. Et quand il est parti, Myriam et moi, on s'est regardé et on s'est dit, c'est difficile d'expliquer à une personne la route. On a besoin de le dire et on a besoin de faire les gestes. Mais c'est tellement facile pour nous parce qu'on habite à Gouilly. Mais pour la personne qui vient de l'extérieur, il ne sait pas par où il doit passer. Et c'est tout à fait ça, être témoin. Nous avons une personne en face qui connaît rien du tout du Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de lui expliquer, mais on a besoin aussi ses gestes. Et il faut dire la vérité. Il n'y a pas de terrain de synthétique à Gouilly. Le péché reste le péché. Nous sommes les témoins. Et ces apôtres devaient être les témoins à Jérusalem. En premier lieu, nous sommes en premier lieu les témoins de notre maison. Nous sommes les témoins dans notre famille. Nous sommes les témoins dans notre village. Nous sommes témoins vis-à-vis de nos collègues. Là où nous sommes les témoins. Et l'ascension nous rappelle que Jésus a été le premier témoin et nous a fait connaître le Père. L'ascension nous rappelle que Jésus a terminé l'œuvre sur la terre et elle était remise aux apôtres premier lieu. Et nous aujourd'hui, les disciples. Alors le deuxième point, tu es un témoin. Ne t'arrête pas, continue à être le témoin. Troisième et dernier point. Ces apôtres montent dans la chambre haute. Je ne sais pas trop c'est où, mais certainement c'est une grande et une grande pièce. Nous voyons ça dans le verset 15, qu'il est dit qu'il avait 120 personnes. Et Luc est précis. Il dit qui était là. Il y avait Pierre, Jean, les 11 apôtres. Puis il dit des femmes. Il y avait la mère de Jésus et les frères de Jésus. Et tous d'un commun accord. L'unité spirituelle. Une seule famille, pas de différence. Aujourd'hui, la chambre haute, on peut dire c'est le bâtiment de l'Église. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des anciens, il y a des pasteurs, il y a des diacres, des diaconesses, moniteurs, monitrices, des mamans et des enfants. Il y a des frères et sœurs dans la chair, il y a des cousins et des cousines. L'unité spirituelle. Pas de différence. Être unis. Et pour vivre l'unité, il faut vivre l'amour. Il faut vivre l'amour. C'est quoi l'amour? Mais c'est le pardon. Pour que la paix règne entre les frères et sœurs. L'ascension nous rappelle que Jésus a manifesté son amour. Il nous a pardonné de tous nos péchés. Et nous avons reçu la paix avec le Père. On a été réconciliés une fois pour toutes. L'amour de Jésus-Christ. Et il est dit qu'il persévérait dans la prière. Oui, ces apôtres avaient commencé une relation avec Jésus. 3 années avec Jésus. Jour après jour, ils avaient une relation. Et voilà que Jésus est parti au ciel. Et ils avaient encore et encore ce désir d'avoir cette relation dans la prière. Ils continuaient cette relation. Ils persévéraient dans cette relation. Alors, la relation avec Jésus dans la prière fait de nous une bonne relation entre nous. La relation avec Jésus dans la prière fait de nous une bonne relation entre nous. Voilà la réussite. Mercredi, il y avait cette finale. Il y a eu beaucoup de finales. Hier, encore une finale de la Coupe des Champions. Mais mercredi, j'ai regardé celle de Rome. Et la Rome a gagné. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'a intéressé beaucoup, c'était ce journaliste. Après cette victoire, il demande à l'entraîneur, c'est quoi la réussite pour gagner une finale? Et Mourinho a dit, avec des larmes aux yeux, il a dit, nous ne sommes pas une équipe, nous sommes une famille. Nous ne sommes pas un groupe, nous sommes une famille. Il y a des joueurs qui ont joué durant l'année 55 matchs, d'autres 45. C'était la fatigue et la fatigue. Mais comme on était une famille, unie, on s'est battu pour gagner cette finale. Il y a des personnes de 80 ans ici dans cette église. Certains de 60, 70. Des jeunes, 20 ans, 13 ans. Nous sommes une famille. Il y a des gens qui sont fatigués dans l'église. Mais on doit rester unis pour gagner cette finale. Cette finale quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et il veut voir que nous sommes unis, attachés aux uns aux autres par la prière. Oui, le troisième point, c'est l'unité. Elle se produit par une relation. Et elle commence par le Seigneur Jésus-Christ, le seul et le seul entraîneur que nous avons. À nous de lui dire, Seigneur, aide mon frère. Aide ma sœur. Aide là qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle continue à être témoin. Et ensemble, nous continuons l'œuvre que Jésus nous a donnée. L'unité. Qu'est-ce qui me motive? Mais c'est le retour de Christ. Jésus revient bientôt. Amen.